Le mannequin par Adrien La Rochelle. Mariette Vatelin s'éveilla, s'étonna, s'effraya. Elle était dans une chambre inconnue, couchée dans un lit anonyme avec un homme qu'elle ne connaissait pas la veille à 6h10. À 28 ans, cela ne lui était jamais arrivé. Bien qu'elle eût un métier dont les bonnes gens croient qu'il se confond avec la galanterie, elle était mannequin. Elle pensait au brave homme qui était son amant depuis 3 ans, qu'elle avait si peu trompé, à qui elle aurait voulu être entièrement fidèle, comme elle avait été fidèle à celui qui avait été son premier amant, qu'elle avait adoré et qui avait été tué en 1916. Elle regarda celui qui dormait à côté d'elle. Elle ressentit un contraste entre la profonde indifférence du sommeil et cette tension violente du désir qui, tard dans la nuit, tenait sur elle des yeux grands ouverts. Jamais elle n'avait vu un homme la désirer avec une violence si aiguë, avec une divination si soudaine. En une nuit, elle avait plus appris sur sa propre beauté et sa propre sensualité qu'en 10 ans. Il était admiratif, respectueux et pressant, avec des mains fortes et des paroles ingénieusement tendres, excessivement prometteuses dont il s'étonnait lui-même. C'était un homme qui écrivait dans les journaux et il était officier. Un rayon de soleil entre les rideaux tombait sur son uniforme de lieutenant d'infanterie jeté sur un fauteuil. En ce printemps, il n'était pas encore démobilisé, il était très jeune. La nuit avait été magnifique. C'était trop bon de vivre ce printemps-là, et c'eût été folie que de n'être pas folle. Mais maintenant c'était fini. Il allait se réveiller tout autre, repu, indifférent, pressé de s'en aller. Et elle devait revenir à la sagesse de sa liaison avec un homme sérieux, affectueux, qu'il épouserait bientôt, et que 2 fois seulement elle avait trompé par gourmandise d'essence. Cet homme construisait les premiers cinémas dans les quartiers populaires et voyait sa fortune croître aisément. Elle se leva avec précaution. Elle espérait partir avant le réveil de l'autre. Mais à peine fut-elle debout, toute nue devant la glace de la cheminée, essayant dans la pénombre de nouer son chignon, que le dormeur, comme ébloui de cette colonne blanche, remua ses paupières. Et aussitôt il l'appela avec la même voix ardente que la veille au soir. Elle se tourna vers lui, les bras au-dessus de la tête. Une blanche flamande au point de perfection. Lui-même était un beau gaillard, aussi brun qu'elle était blonde. Une demi-heure plus tard, elle se hâtait vers sa maison de couture. Et elle s'assurait qu'elle ne le reverrait plus. Mais n'était-ce pas devant la porte de cette maison, place Vendôme, d'où elle sortait chaque soir, qui lui avait été présentée? C'est ainsi que Mariette Vatelin et Philippe Montagne se connurent au printemps de 1918. Ce n'était pas un désir léger qui s'était emparé de Philippe pour cette chair blanche, mais profond, durable, qui bouscula plusieurs circonstances hostiles. Blessé à la jambe depuis 1915, inapte, et grâce aux protections de son père, employé dans un service de Paris où on lui laissait beaucoup de loisirs, il avait vécu dans un milieu facile de jeune femme riche, qui pour une raison ou pour une autre ne semblait pas souffrir outre mesure de la guerre. À cause de Mariette, il se détacha peu à peu de tout cela. Mariette se défendait contre lui. Certes, elle avait été heureuse dans ses bras, mais elle avait cru voir la fin de ce bonheur au premier matin. Elle avait besoin d'être fidèle. Si elle se prolongeait, cette passade déchirait le sentiment d'estime qu'elle avait d'elle-même et qui s'appuyait paisiblement sur la solidité de cœur de son ami. Elle ne croyait pas aux protestations de Philippe. Si elle était séduite par les mots, elle en était aussi effrayée. Elle n'avait connu avant Philippe que des hommes d'affaires assez simples. Il les jugeait plus sûrs que ce journaliste qui parlait de tout et de son amour avec frénésie. Sa résistance exaspéra les sens de Philippe, qui lui arrachait rendez-vous par rendez-vous et à chaque rendez-vous un aveu déchiré. Et les raisons qu'elle lui en donna avec un positivisme sincère rendirent plus amère pour le jeune homme la vision qu'il prenait alors des choses. Philippe avait été démobilisé et sa vie avait changé du jour au lendemain. Jusque-là, il avait eu de l'argent. Vivant chez ses parents, qui étaient des bourgeois aisés, il avait sa solde. Il ne l'eut plus. Jusque-là aussi, il avait été un bourgeois en puissance. Il devait passer les examens qu'il préparait avant la guerre et qui le feraient entrer à l'inspection des finances. Or, soudain, il y renonçait, comptant vivre de sa plume. Sa nature nerveuse avait été frappée par les souffrances d'un an d'infanterie et la colère qui l'habitait lui donnait l'illusion d'une grande force personnelle. Il s'était mis à écrire comme on crie sans préparation. Il plaçait quelques articles à droite et à gauche. Le jeune officier élégant fut transformé soudain en un vieil étudiant au rêve tardivement incertain. Mariette se confirma dans l'idée qu'elle avait eue dès la première minute. Pierre ne pouvait lui assurer ce complément que rendait indispensable son salaire ridicule, et que d'ailleurs elle n'avait jamais voulu accepter que d'un homme qu'elle avait aimé et d'un autre qu'elle estimait. Philippe ne pouvait donc pas, comme elle s'était prise à l'espérer par moments, remplacer ce dernier dont la maladresse au lit refroidissait son cœur. Elle avait connu la misère et s'en éloignait depuis son enfance de tout son effort. Elle ne comprenait pas l'attitude téméraire de Philippe envers cette misère qu'il ne connaissait pas. Elle défendait contre lui tout ce qu'elle avait acquis. Par malheur, si elle était déjà entrée dans certains raffinements matériels, elle en voulait encore d'autres. Or, il se trouvait que ces raffinements-là, Philippe les lui offrait, tout en menaçant la conservation des premiers. Sans aucun pouvoir sur l'argent, il jetait sur toute chose des regards d'indifférence ou de mépris dans l'appartement qu'avait peu à peu rempli les libéralités de deux amants laborieux. Mais dans ce lit dont il faisait retirer les draps de soie, il entraînait Mariette à une exaltation des sens et du cœur qui devenait peu à peu trop précieuse à la jeune femme. Il appartenait à une bourgeoisie plus raffinée que celle de l'entrepreneur de cinéma, fils de ses œuvres, ce que goûtait Mariette en même temps qu'elle s'étonnait et s'amusait du débraillé des camarades de Philippe. Il lui était difficile de lutter contre plusieurs plaisirs. L'aisance des parents de Philippe lui permettait de cultiver une certaine nonchalance et un certain ragoût sensuel. Encore aujourd'hui, il vivait chez eux, et ce point d'appui soutenait sa bohème arrogante. Ce point d'appui, Mariette n'en avait pas un aussi solide, et c'est pourquoi Philippe était dangereux pour elle. Il vint un moment où elle dut reconnaître que Philippe ne pouvait plus être écarté, et qu'elle devait tant bien que mal lui garder sa place à côté de l'autre. À peine se fut-il avoué cela que Philippe le sentit et changea. Du jour au lendemain, il devint plus exigeant et demanda le renvoi de l'autre. Il ne promettait nullement de remplacer ce qu'elle perdrait. Il n'avait pas un sou. Il faudrait qu'elle quitte son appartement, son avenir de femme bientôt mariée. Il lui resterait les 1 000 francs par mois de sa maison de couture. Avec des mots, Philippe démolissait légèrement tout l'effort de Mariette depuis l'âge de 14 ans. Elle se révolta. Pour rompre avec Philippe, elle avoua tout à l'autre, en lui demandant de lui pardonner et de la défendre contre un ennemi, un homme égoïste et injuste. L'autre crut pardonner, mais céda peu à peu à la rancune, et ayant fait parler la concierge, qui avoua les rechutes de Mariette, décida un beau jour d'en finir. Avec sa clé d'amant en titre, il entra dans l'appartement quand Mariette n'y était pas, fit main basse sur les quelques bijoux qu'il avait donnés, et s'en alla pour ne pas revenir. Mariette, du jour au lendemain, se résigna à l'héroïsme qui se présentait d'ailleurs, dans les premiers temps, comme une volupté infinie que plus rien n'arrêtait. Cette volupté, Philippe ne demandait qu'à s'en aveugler, pour ne pas voir le tour qu'en un rien de temps avait déjà pris sa vie. S'il avait fait bon marché de son avenir dans l'inspection des finances, c'est qu'il avait un rêve d'ambition. Il pensait devenir rapidement un des principaux journalistes politiques de son temps, et quelques camarades, qui faisaient leur chemin en avant de lui, avaient vanté à droite et à gauche sa verve coléreuse. D'autres hochaient la tête et se refusaient à voir dans Philippe autre chose qu'un amateur qui n'avait pas appris à écrire et qui n'apprenait pas encore. Ceux-ci avaient raison. Philippe, qui dans les cadres d'un métier bien déterminé aurait sans doute fait merveille, s'est perdu dans les perspectives incertaines et trompeuses du journalisme. Il ne trouva pas la discipline que lui seul pouvait se forger. Il fut la proie de cette nonchalance tout de suite décisive qui fait oublier un jeune homme de fixer ses dons par le travail. Après quelques échecs dans la grande presse, il n'eut bientôt plus ses entrées que dans un petit journal de combat. Bien que là comme ailleurs on lui eût refusé une des premières places, il nourrissait encore des illusions. Mariette, qui s'était méfiée lors de leur rencontre, avait perdu peu à peu depuis lors le sens des réalités. Elle commença à croire de l'avenir de Philippe au moment où celui-ci fut définitivement compromis aux yeux des bons juges. Elle avait besoin de cet espoir pour supporter les premières affres de sa nouvelle vie. Au bout d'un an, elle n'avait plus beaucoup de robes ni de souliers. Elle vendit son manteau de fourrure pour payer son terme. Elle ne pouvait se résigner à quitter son appartement. Philippe la blâmait. de s'arracher si difficilement à son pauvre bien. Il n'avait aucun besoin de confort. Dès lors, il prenait des habitudes qui deviendraient la routine de toute sa vie. Cet homme, qui avait été un jeune bourgeois soigné, un étudiant minutieux, s'était découvert à la guerre une nature impérieusement fruste. Il s'abandonna entièrement aux délices animales et modestes de la paresse. Un paquet de cigarettes tous les jours et de temps à autre le cinéma, une après-midi de bateau sur la Marne, voilà qui, en dehors de l'amour, comblait tous ses vœux. Le bavardage avec l'un ou avec l'autre, la chaude atmosphère du journal, les menus privilèges dont son métier l'assurait dans la vie de Paris, cela achevait de lui faire oublier son ambition. Il était bel homme, et il aurait eu un peu partout des succès féminins, s'il n'avait été fidèle. Fidélie faite de jalousie, car il n'avait pas oublié ses débuts difficiles auprès de Mariette, et le métier de celle-ci le maintenait dans une salutaire inquiétude. Il suffit qu'une femme ait résisté une heure à un homme pour garder un long prestige, alors même qu'elle s'est abandonnée à lui pieds et poings liés. Elle se consolait de n'avoir plus de robe, puisqu'elle était si bien aimée nue. À la longue, pourtant, ce prestige s'usait. Philippe commençait à regarder à droite et à gauche, d'autant plus que la plus grande liberté de Mariette avait diminué la sienne, dont il était déjà férocement jaloux, comme peut l'être un bohème bourgeois qui retrouve ainsi l'avarice. S'il avait voulu que Mariette fût tout à lui, il ne songeait nullement à la payer de leur tour. Voulant garder le contact avec sa famille, il ne songea pas à habiter avec elle. Les amis de Mariette, qui, riches ou pauvres, s'étaient extasiés sur le sacrifice qu'elle faisait à l'amour, étaient prêts de s'indigner. Mais Mariette leur expliquait les privilèges de Philippe, qu'elle croyait être ceux de l'artiste, qui étaient en réalité ceux du fils de famille. Cependant, elle était encore capable de défense, et il lui arriva de sortir avec d'autres hommes. Elle les dominait facilement, elle se délassait le temps d'un dîner. Peut-être Mariette et Philippe se serait-il détaché sans douleur. Si un événement ne s'était produit qui eut de graves conséquences, Mariette fut enceinte. Elle était habituée à certaines pratiques, elle était bien dressée par Philippe, elle avait refoulé profondément en elle, à cette époque, tout espoir matrimonial, en sorte qu'elle ne s'étonna pas de la décision de Philippe. « Mon petit, tu comprends, nous n'avons pas d'argent. Avec mon métier, ah, si j'avais de l'argent, je serais bien heureux d'avoir un enfant de toi. Mais... qu'est-ce que tu veux ?» La décision fut prise rapidement et sans grand émoi de part et d'autre. Or, ces quelques mots fixèrent soudain le sort de ces deux êtres. Le moyen de fortune qu'employa Mariette et qu'il avait épargné en d'autres temps eut cette fois raison de sa santé de femme. Elle devint infirme, comme tant d'autres, après avoir manqué mourir. Philippe, qui jusque-là, tant vis-à-vis de Mariette que de lui-même, avait été presque uniquement léger et inconscient, tout en égoïsme juvénile, s'éveilla à demi. Il fut visité par un remords violent. Pour la première fois de sa vie, en dépit de son expérience de la guerre, il se heurtait au sentiment de l'irréparable. La mort qu'il avait frôlée tant de fois en Argonne ou en Picardie entrait pour la première fois dans son cœur. Pourtant, elle ne bouleversa qu'à demi ses dispositions et ses habitudes. Or, si des résolutions absolues ne suivent pas sur le champ un tel bouleversement moral, on s'aperçoit plus tard qu'il n'a servi de rien. C'est ainsi que cette tendresse nouvelle, douloureuse et pitoyable, qui rattacha Philippe à Mariette convalescente, assura le malheur futur de celle-ci. C'est ce dont se rendit compte peu de temps après son ami Xavier Cormon. Celui-ci occupait dans la presse de droite une place un peu en l'air, du genre de celle qu'avec le moindre effort, Philippe aurait pu occuper dans la presse de gauche. Mal payé et un peu bousculé par ses confrères, Cormon développait un talent inégal mais tenace. Il semblait avoir renoncé aux grandes ambitions et montrait sur toute chose une sagesse un peu affectée. Il dînait quelquefois avec le couple, recevait les confidences de Philippe et devinait celles de Mariette qui transparaissaient sur son visage clair, maintenant marqué. « Pourquoi ne quittes-tu pas Mariette ?» demanda-t-il un jour à Philippe avec la lucidité hargneuse des vieux amis. « Comment ? Mais je l'aime !» répondit celui-ci sans dissimuler son air aussitôt soucieux. « Tu l'aimes encore ? N'attends pas de ne plus l'aimer. Si tu la quittes au bon moment, vous souffrirez moins tous les deux, surtout elle. Et puis, quel âge a-t-elle ? 34 ans. Elle n'en a plus pour longtemps. À être belle, ces belles blondes se fanent, du moins dans le travail. » Oui, je sais, murmura Philippe. Son métier est esquintant. Il n'y en a aucune qui le fasse si tard. Pour parler net, quitte-la quand il est encore temps pour elle de retrouver un amant plus sérieux que toi. Contrairement à ce qu'attendait Cormon, Philippe ne protesta pas contre la morale bourgeoise qui lui était ainsi rappelée. Il comprenait maintenant que pour Mariette, qui était brave, le recours à un homme capable de travailler pour elle n'était qu'un pis-aller, une défense maladroite mais nécessaire contre la déchéance prématurée que ne méritait pas sa belle chair blanche. Mais il ne voulait pas voir la situation en face. Il se réfugiait dans des serments, des exécrations épouvantables contre le traître qu'il serait demain. « Mon vieux Cormon, je ne la quitterai jamais. J'ai ruiné sa vie de femme par mon inconscience et mon égoïsme. Elle était faite pour avoir des enfants, bâtie comme elle l'est, livrant d'elle une source inépuisable de santé et de fécondité. » Quand leur conscience crie dans la rue, les gens qui savent bien de quels excès elle pourrait se montrer capable s'ils lui ouvraient la porte sans précaution, lui jettent par la fenêtre une de leurs actions, une seule. Philippe avait d'ailleurs choisi la plus noire. « C'est impossible que tu restes avec elle toute ta vie. » Pourquoi Cormon disait-il cela avec tant d'assurance? Il pensait principalement que Philippe aurait tôt ou tard une réaction contre sa vie de bohème, que le bourgeois se réveillerait en lui et que Mariette serait la première victime de ce changement. Jugeant cela par lui-même, qui, brave journaliste sans grand renom et prenant du ventre, rêvait sournoisement d'un mariage confortable, il se trompait. Mais il se trompait seulement sur la pente que préférerait la lassitude de Philippe. Ce qui fléchit d'abord, ce fut ce qui semblait le plus solide, l'attachement sensuel. Philippe avait été pendant plusieurs années un amant entièrement absorbé, parfaitement fidèle. Sa pauvreté, son orgueil en étaient des garanties en dehors de la concentration naturelle de ses sens, qui, reportée sur d'autres objets qu'une femme, aurait pu faire de lui un artiste. Soudain, il parla des longs retards de sa curiosité, réclama sa liberté. Il commença de tourmenter Mariette. Certes, depuis des années, il avait prétendu faire de celle-ci une femme moderne, ouverte à toutes les indulgences que conseille une certaine philosophie de la nature, une libertaire, prémunie contre la tyrannie de la sentimentalité. Mais, sous ses acquiescements apparents, la sensibilité entière de Mariette avait subsisté, prête à nourrir sa souffrance. Philippe eut des aventures et, ne voulant pas la tromper, la déchira avec les griffes d'un cynisme qui, de plus en plus acéré, armèrent peu à peu un véritable sadisme. Il revenait souvent à elle, mais pour mieux la torturer. La sensualité qu'il lui rapportait versait sur elle l'acide des comparaisons les plus traîtresses. Une femme peut sangloter tous les jours, pendant des mois et des années. « Notre vie est un enfer !» cria-t-il un jour. Il avait tout fait pour qu'il en fût ainsi. Et dès lors, l'idée de la séparation entra en lui et en elle. Elle faisait un mal atroce, chez l'un comme chez l'autre. Pour lui, c'était la fin de sa conscience. Depuis l'avortement de Mariette, il avait conçu sa vie avec une misérable futilité sur l'idée négative que s'il ne ferait jamais beaucoup de bien à sa compagne, il ne lui ferait jamais beaucoup de mal. Pour elle, toutes les promesses dont la vie l'avait caressée quelques années auparavant, elle pensait souvent les charmer de nouveau, les ramener sur son destin. Bien qu'elle vît les défauts et les défaillances de Philippe, elle gardait foi en lui. Il est difficile à une femme qui n'est pas éduquée et qui connaît peu le monde de mesurer la valeur d'un homme et surtout de rabaisser celle d'un amant qui exerce sur elle une complète autorité physique. Comme Philippe lui-même, elle pensait qu'il était méconnu et qu'un jour ou l'autre, un miracle éclairerait ses amis que tous deux soupçonnaient de l'étouffer doucement dans l'esprit des directeurs de journaux. Par-dessous cette songerie, elle se reposait en toute innocence sur un futur plus positif. Les ressources bourgeoises que continuait à receler l'existence chétive de son amant, l'héritage qu'il attendait de ses parents et qu'il partagerait un jour avec ses deux sœurs mariées dans l'armée. Elle avait toujours supporté que Philippe demeurât chez ses parents parce que cette habitude maintenait le trait d'union entre un passé misérable, sans cesse plus long, et un avenir reposant et confortable, sans cesse plus court, hélas. Mariette, qui à 35 ans changeait encore de robe 100 fois par jour dans une cabine de la place Vendôme, reposait en toute innocence son beau corps excédé sur cette promesse d'avenir. Mais surtout, elle comptait sur le mariage. Ses douceurs, sans enfants, n'étaient qu'un leurre amer. Mais pour des millions de femmes sans ressources et sans famille, perdues dans le désert des villes, elle peut tromper l'angoisse d'être seule. Et voilà que Philippe la replongeait dans un dénuement pire que celui de ses 14 ans, quand, apprentie débarquée à Paris, elle ne savait pas qu'elle était belle et marche le soir sur des talons tournés vers un galetas vide. « Si je ne t'aime plus !» cria Philippe avec un visage convulsé par la peur. « Rien ne peut faire que je t'aime encore. Et si je ne t'aime plus, je ne peux plus vivre avec toi. » Il s'arrêta et la regarda. Il lui semblait enfoncer un couteau et voir le sang jaillir. Le jaillissement rouge, ce fut ce cri. « Eh bien, va-t'en » Faut-il 2 victimes au lieu d'une? Si je me tue, faut-il que je meure avec toi? Si je reste avec toi, ma vie est finie. » Il pensait avec horreur à l'ennui qui pourrissait maintenant ses soirées auprès d'elle. « Je t'ai donné toute la fin de ma jeunesse, » murmura Mariette. « Est-ce une raison pour me prendre mon âge mûr ?» Ce jour-là, il fallait à Philippe vomir tout. Elle se drapa dans l'ignominie. « Je suis sans argent. Ma figure s'abîme. Je finirai vieille ouvrière. » Il donna des coups de poing contre les murs. « Tu déplaces la question, » grinça-t-il. « D'une part, il y a la question de l'amour, et de l'autre, la question de l'argent. Tu n'as pas plus d'argent sans moi qu'avec moi. » Il avait oublié ce qu'il lui avait fait perdre. Mariette se tut. Elle n'osait plus penser à l'héritage de Philippe. Et elle n'avait plus ni le goût ni l'espoir de plaire à un de ces hommes sûrs comme ceux qui l'attendaient autrefois à Place Vendôme. Dans le noir, elle cherchait à tâtons la colère comme une boîte d'allumettes qui peut allumer un incendie salutaire, anéantir le passé. Mais sa main asservie ne la trouvait pas, Philippe répétait. Les deux questions sont séparées. Il n'osa pourtant pas ajouter « Si tu avais de l'argent, tu serais moins triste de me quitter. » Il sentit que ce serait odieusement idiot. Le chagrin n'est pas une chose mesurable. Il se réfugia dans l'annonnement de ses maximes libertaires. « Toi aussi, tu aurais pu cesser de m'aimer et avoir envie de t'en aller avec un autre. Le risque était réciproque. » Mais Mariette n'était pas libre de ne pas vieillir plus vite que Philippe. Elle luttait comme elle pouvait contre cette fatalité. Or, l'union de l'homme et de la femme est une assurance du plus faible contre le plus fort et souvent du plus âgé contre le plus jeune. C'est la nécessité qui fonde l'institution du mariage et s'impose dans le collage avec plus de force encore, car dans ce cas, elle mord plus directement sur le secret des consciences. Dans un collage, au bout de quelques années, le plus faible regarde l'autre et est prêt de se reposer enfin sur l'idée qu'il l'a assujetti définitivement. Si l'autre a encore assez de force, il sent la menace, s'arrache et cherche un compagnon plus jeune. Mariette, femme bonne, sans ruse, sans amis, sans famille, sans éducation, en face d'un homme qui avait un peu de tout cela, semblait sans défense. Elle avait pourtant une alliée, la pitié, qui rôdait autour du cœur de l'autre. Philippe se défendit avec âpreté contre l'enjôleuse. Certes, s'il avait été plus fort dans sa lutte contre les hommes, il aurait eu droit de se défendre contre cette sirène dont les chants doucereux vous attirent sur des ailes de désolation. Mais, et ce fut plus tard tout son remords, il ne montra jamais de dureté que contre une femme. Du reste, sournoisement, il s'était toujours défendu contre Mariette. Par exemple, il n'avait jamais voulu vivre avec elle. S'il ne la quittait pas maintenant, il lui faudrait enfin avouer ses chaînes et en venir habiter avec elle. Or, cette perspective l'obligea brusquement, au bout de 10 ans, à reconnaître tout ce qui manquait à Mariette pour le satisfaire et tout ce qu'il pouvait encore trouver en dehors d'elle. Sur le tard, la volupté étant morte, Philippe s'avisait que cette femme qui lui réclamait le reste de sa vie était la cause du mal qu'il s'était fait. Il était vrai qu'il n'y avait pas en elle le sens de l'ambition. Si elle n'avait été belle, elle ne serait jamais sortie de la misère. Elle n'avait jamais eu la moindre divination des valeurs supérieures. Aussi n'avait-elle pu apporter à Philippe aucune critique salutaire, ni aucune ironie éprenante. Sans le vouloir, elle avait laissé Philippe se perdre dans la paresse et la facilité. Une réaction tardive et vaine, une obscure rancune souleva Philippe contre elle. Jamais un homme ne pardonnera sa compagne et ses propres faiblesses. Les choses traînèrent cruellement. 2 ou 3 années passèrent. Il fallait, pour en finir, qu'une volonté s'imposa à Philippe et à Mariette, aussi incapables l'un que l'autre d'avancer ou de reculer. Cette volonté fut celle d'une femme qui tomba amoureuse de Philippe. On put voir alors que celui-ci était soulevé par l'envie de trouver mieux que Mariette. mais qu'il avait passé trop de temps avec elle, pour pouvoir désormais s'élever beaucoup au-dessus d'elle. Il avait pris du ventre, ses dents étaient salies par le tabac, il ne se baignait pas assez souvent et la rancune colorait tous ses propos. Renée Loret était une petite journaliste en qui Philippe trouvait une partenaire pour les interminables bavardages qui de plus en plus remplaçaient chez lui la lecture et l'étude. Plus instruite, elle n'était pas si belle que Mariette, mais son type physique rappelait de façon évidente, comme il arrive souvent, le type de la délaissée. Elle admirait Philippe qui était supérieur de toutes les manières aux amants qu'elle avait eus jusque-là et qui étaient justement ses camarades médiocres dont Philippe, dans les cafés, se faisait une cour dérisoire. Il était aussi urgent pour elle de conquérir une ombre que pour Mariette de garder celle qui l'avait fascinée si longtemps. Elle engagea carrément la lutte, et voyant que Philippe louvoyait et semblait vouloir partager son temps entre elle et Mariette, elle eut le courage de lâcher son travail et de courir la misère en Espagne pendant plusieurs mois pour se faire désirer. Quand elle revint, Philippe n'avait pas vu Mariette depuis un mois. Un soir, il revint lui dire qu'il la quittait. Mariette hurla, acheta un revolver. Quelque chose la sauva, une légère impureté dans sa vie. Elle avait toujours gardé son petit appartement de Neuilly. Comment le payait-elle? Elle l'avait fait croire à son amant qu'elle avait été sérieusement augmentée par sa patronne. Mais de temps à autre, elle voyait un associé de son ancien ami, un homme effacé et ponctuel qui n'avait pas besoin, semblait-il, de plus que ces quelques minutes pendant lesquelles elle se laissait admirer de temps à autre. Un soir, qu'elle avait refusé de recevoir cet homme et que seule elle se laissait tournoyer autour de l'idée de meurtre, cet homme entra de force chez elle. Il avait deviné son état d'âme. Cet homme n'était pas très sensible, mais la jalousie qu'il nourrissait depuis des mois en silence pour Philippe avait fait de lui pour toujours l'esclave de Mariette. Dans un transport de joie, il s'écria « Après tout, vous l'avez bien trompé avec moi !» Ce mot, qui fit honte à Mariette, lui retira un instant le sentiment de son bon droit. Elle en resta désarmée. Ainsi s'achève Le mannequin par Pierre Drieu-La Rochelle.